pour ce dernier séminaire, Marc Antonini a bien voulu venir de. Et donc c'est un des experts qui a participé donc à cette mise en place des standards de compression et l'optimisation des algorithmes de compression. Donc tout ça s'est passé entre essentiellement les années début des années 90-2000, donc ça fait maintenant bien longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment le sujet a évolué. Quand vous prenez les sujets scientifiques, ils ont une naissance, et à un moment, ils vivent, puis ensuite ça meurt, et puis ça remonte, ça revient, etc. Il y a des renaissances, ça c'est l'avantage des sujets. Et donc il y a eu un moment où finalement on a atteint une forme de palier en termes de performance, c'est-à-dire que la recherche de nouvelles bases n'améliorait pas grand-chose. Ce que je disais, il y a peut-être l'espoir maintenant de ressortir de ce palier. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir à travers l'exposé de Marc un peu comment cette recherche a évolué. Aussi sur les supports, il va y avoir différents aspects dont il va nous parler. Donc merci beaucoup pour cette présentation.
Merci Stéphane pour l'introduction et puis merci de m'avoir invité à donner cet exposé donc ici au Collège de France. Donc je vais parler aujourd'hui de stockage de données numériques sur ADN synthétique. Alors comme l'a dit Stéphane, les choses ont évolué hein, depuis les années 90. Alors je dirais peut-être que les codeurs sont toujours dans le même paradigme, hein, on verra, mais bon, il y a des nouvelles tendances, et notamment ici, on va parler de support ADN. Et donc, je vais commencer mon exposé par en fait une remarque, une constatation plutôt. 175 étaoctets en 2025. Donc, 175 étaoctets, c'est quoi ? Eh bien, c'est la quantité de données numériques en fait sur la planète. Donc, ça, ce sont des prédictions en 2025. En 2020, c'est 40 étaoctets. Donc, alors, pour donner un ordre de grandeur, 175 étaoctets, c'est 10 puissance 21 octets, soit 1 milliard de téraoctets. Si vous deviez stocker ça sur des disques Blu-ray, donc sur lesquels on stocke nos vidéos, vos films, eh bien, vous pourriez constituer 23 piles de disques dont la hauteur ferait la distance Terre-Lune. Donc on est sur un problème, on fait face à un problème aujourd'hui, c'est cette quantité de données en fait qui est énorme et qui ne cesse de croître. Ici on a une croissance ici de 60% en fait de la donnée donc chaque année. Alors cette donnée en fait elle est essentiellement on l'appelle essentiellement la donnée froide. Alors qu'est-ce que c'est la donnée froide ? C'est de la donnée à laquelle on accède rarement, voire jamais. Par exemple, vos vieilles photos sur Facebook ou vos vieux emails que vous avez gardés dans votre boîte à mail, mais que vous ne regardez jamais. Mais les data centers, en fait, les centres de données qui conservent ces données, sont obligés de les conserver parce qu'un jour vous avez peut-être besoin. Vous avez peut-être besoin et vous voudrez y accéder. Donc c'est ce type de données en fait qui est problématique, hein, je dirais, et qui augmente de 60% chaque année. Alors en parallèle de ça, on parle de données chaudes, hein, ou très chaudes, donc c'est de la donnée qu'on accède à la fraction de seconde, à la milliseconde. Et par contre, cette donnée froide, eh bien, il nous faut, on peut attendre plusieurs secondes ou plusieurs heures pour la récupérer par moment. Alors le problématique, c'est quoi ? Eh bien, c'est que pour stocker cette donnée, ça devient de plus en plus compliqué. Puisque la densité de stockage des systèmes actuels, donc disque dur ou bande magnétique, les capacités de stockage grandissent, je dirais, de maximum 20% chaque année. Donc on a 60% d'accroissement de la donnée, 20% de capacité de stockage, donc ce qui veut dire qu'on est obligé de construire de plus en plus de disques durs et de data centers en fait, pour pallier à ce problème. Et on n'y arrive pas, puisque de toute manière, si on regarde un peu les tendances, donc ça, c'est la demande, donc c'est la courbe en rouge, hein, donc au long des années. Donc là, on est en 2020, donc 2009-2020, donc sur les 10 dernières années. Et ici, donc c'est les capacités en fait de stockage. Donc ce qui veut dire qu'il y a une partie de la donnée qu'on va devoir perdre parce qu'on ne pourra pas la stocker. Un point important aussi, c'est le fait que quand on stocke sur des disques durs ou des bandes magnétiques, il y a toujours un problème que le disque, il y a une durée de vie limitée, hein, donc le disque crash et qu'on perde les données, donc on est obligé chaque 5 ans, chaque 10 ans, enfin en tout cas les data centers, sont obligés de faire des copies en fait, de ces disques durs de façon à pérenniser la donnée dans le temps. Alors, qui dit copie dit possibilité de perdre la donnée lors de la copie, dit consommation électrique, consommation donc, financière, et aussi bien des anciens disques durs, bien, il va falloir les recycler, parce qu'en fait, voilà, on est obligé de changer de support. Et puis, le disque dur, peut-être que dans quelques années, eh bien, ça sera obsolète et qu'il faudra passer sur d'autres systèmes d'archivage. Donc, en fait, on est confronté à ces problèmes. Alors évidemment, c'est pas très bon pour la planète, hein, en tout cas d'un point de vue énergétique. Et notamment ici, on peut constater que la quantité de data centers en fait a augmenté. Enfin, était à 500 000 en 2012 et en l'espace d'une petite dizaine d'années, on est passé à 1 million de data centers et ça ne cesse d'augmenter. Alors évidemment, donc les scientifiques s'intéressent sur des solutions en fait de stockage alternatives. Au disque dur. Donc, l'idée, c'est d'avoir des stockages qui soient plus pérennes et plus compacts. Et donc, ici, par exemple, hein, donc un exemple de recherche actuelle, c'est le silica glace. Donc, c'est des espèces de plaquettes de verre où on peut graver en trois dimensions au laser dans la plaquette, donc qui en fait, présente de bonnes propriétés de durabilité et d'indestructibilité, puisqu'on peut, pratiquer plein de choses sur cette plaquette et arriver toujours à décoder la donnée qu'on a stockée dessus. Mais par contre, ce n'est pas très compact. Hein. Donc, sur cet exemple-là, donc, c'est un projet de Microsoft. Donc, ils ont stocké le vieux film de Superman de 1978, donc, ce qui représente 76 gigaoctets à peu près, et donc sur cette plaquette qui fait 7,5 par 7,5 cm et 2 mm d'épaisseur. Donc on a des solutions, enfin des solutions commencent à émerger, mais qui ne sont pas forcément dans l'esprit de ce qu'on recherche, c'est-à-dire des systèmes de stockage qui soient pérennes et compacts. Alors, en parallèle de ça, il y a la piste de l'ADN. Et en fait, la piste de l'ADN, on s'intéresse depuis pas mal d'années hein, maintenant sur cette piste-là, mais je dirais que les premiers résultats concrets sont apparus en 2012, donc c'est à peu près 10 ans. Et il est montré que théoriquement, sur un gramme d'ADN, aujourd'hui, on pourrait stocker 215 pétaoctets de données. Donc 215 millions de gigaoctets hein, pour ramener au gigaoctet. Alors quels sont les avantages en fait de l'ADN? L'ADN c'est donc ultra compact, hein, donc puisque ici c'est un milliard de fois plus que le disque dur, hein, plus compact que le disque dur. Ça peut durer des centaines voire des milliers d'années. Alors, on a donc l'exemple d'ADN de mammouth qui a été séquencé il n'y a pas si longtemps, donc un ADN de 1,2 million d'années. Donc, on est arrivé à retrouver en fait le séquencer, au moins en partie. Alors, par contre, effectivement, il était conservé dans le pergélisol, donc sous certaines conditions, hein, évidemment. Et puis c'est une solution qui est bonne pour l'environnement. Donc on a trois facteurs intéressants. Donc c'est très compact, ça peut durer pendant des centaines voire des milliers d'années sans altération et sous certaines conditions évidemment de stockage. Et c'est bon pour l'environnement. Alors on est confronté quand même à un problème qui est quand même pas négligeable aujourd'hui. La technologie est nouvelle. Hein. C'est le prix en fait pour la synthèse de cet ADN, parce qu'on va parler d'ADN synthétique, qui est relativement cher aujourd'hui. Donc on est autour de 1 dollar pour 200 nucléotides. Bon, on verra plus tard un peu à quoi ça correspond, mais grosso modo, on n'est pas encore prêt à dépenser l'argent qu'on va dépenser pour stocker. Pour stocker des gigaoctets de données, c'est énorme aujourd'hui, on dirait presque que c'est inconcevable. Sauf que les technologies évoluent. Beaucoup de compagnies, et de grosses compagnies telles que Microsoft ou Western Digital, s'intéressent à ce type de problème. Et il est très probable que dans les années à venir, le coût de la synthèse diminue. Enfin, on l'a bien vu avec les transistors. Hein, quand les transistors sont apparus, c'était excessivement cher. Aujourd'hui, on intègre des millions de transistors sur une puce à quelques centimes. Donc, on est dans ce même esprit. Mais ça veut dire quand même quelque chose aussi ici. Ça veut dire que malgré tout, même si c'est très, je dirais, la capacité est très grande, on va quand même toujours avoir besoin de la compression. C'est-à-dire que plus je vais comprimer ma donnée, et moins j'aurai de données à stocker. Donc, moins ça va me coûter cher. Donc, on a cette composante en plus, donc le coût ici. Et la compression, ben, c'est quelque chose qui malgré tout, continue à vivre et est nécessaire aujourd'hui dans les applications. Alors, juste pour donner un ordre de grandeur, donc ici, en 2020, sur la planète, 40 octets de données donc numériques. Si on avait à stocker ça sur des bandes magnétiques, il nous en faudrait 227 millions, 2,6 milliards de disques durs, 42 milliards de clés USB, l'équivalent pourrait être stocké sur un gramme d'ADN. Voilà, donc on est dans cette philosophie. Alors évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent, même si on est capable de synthétiser l'ADN. Bon, par exemple, un des problèmes ici, ça serait si j'ai 40 zeta-octets de données, comment stocker sur un gramme d'ADN, comment arriver à retrouver facilement un fichier parmi cette masse de données. Et donc là, il y a des pistes de recherche, hein, bien sûr, hein, qui existent, hein, notamment au niveau du calcul moléculaire. Et donc les gens s'intéressent à ces problématiques. Alors, bon, l'ADN, je pense que tout le monde connaît. Enfin, juste pour rappel, donc ici, donc c'est la molécule en fait qui porte l'information de la vie. C'est constitué de 4 monomères, donc on appelle les nucléotides, hein, que j'appellerai nucléotides dans la présentation. Donc l'adénine, A, thymine, T, cytosine, C et guanine. Donc les avancées aujourd'hui en synthèse moléculaire, donc permettent de faire de la synthèse d'ADN synthétique. Et de relire cet ADN synthétique grâce à du séquençage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, nous, on s'intéresse à de l'ADN synthétique, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ADN qui va porter la vie. Donc, c'est important de faire la dissociation. On ne crée pas de gènes ou de séquences codantes, en fait. Hein. On transcode, on va dire, du binaire dans une forme quaternaire qui n'a pas de signification biologique. Hein. L'ADN est un simple support. Mais ce n'est pas quelque chose, ça ne peut pas être interprété comme un gène pourrait l'être. Hein, donc c'est assez important. Alors, la question qu'on va se poser, c'est effectivement comment stocker de l'information numérique sur de l'ADN synthétique. Et donc là, c'est un peu l'objet de ma présentation. Donc je vais juste dresser un petit panorama du stockage sur ADN avec état de l'art. Et puis, je présenterai une solution en fait, qu'on a développée au laboratoire avec une expérience en laboratoire humide donc, de stockage et de séquençage et des perspectives et des challenges en fait, dans le domaine, car bon, les perspectives et les challenges sont effectivement très nombreux. Alors, le principal, donc ça, c'est le schéma principal de codage sur ADN. Alors, ça ressemble à un schéma classique. Hein. Finalement, on est toujours dans le même esprit de définir ici un encodeur donc, pour une donnée d'entrée. Donc, ici, une image. J'ai pris une image, mais on peut mettre n'importe quelle donnée. Et puis, ici, un décodeur. Donc, quel est le rôle de l'encodeur? Ben, l'encodeur va, convertir cette donnée numérique, cette donnée binaire, donc avec qui est codée sous forme binaire, en code quaternaire. Donc ici, on est sur des codes à base 4. Donc ici, on a, au lieu d'avoir les lettres 0, 1, on va avoir 4 lettres. Enfin, les chiffres 0, 1, on va avoir les 4 lettres, donc A, T, C, G. Et il va falloir coder, en fait, de l'information ici numérique sous forme de code quaternaire, qui, lui, sera adapté au support de stockage qui est l'ADN synthétique. Alors, si j'oublie ce qu'il y a au milieu, je suis capable, à partir de ce code, évidemment, et en appliquant un décodage, de retrouver en fait ma donnée d'entrée. Donc ici, et de façon parfaite, si je récupère parfaitement mon code ici quaternaire. Alors, au milieu entre ces deux boîtes hein, qui sont donc codage décodage et qui sont des choses classiques qu'on trouve en traitement du signal, traitement des images, compression. Ici, j'ai par contre toute une procédure biochimique qui va s'intéresser à synthétiser la molécule d'ADN en fonction du code quaternaire que j'ai produit, et puis la stocker. Alors, on va la stocker ici dans des capsules. Hein, donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, dans des capsules spécifiques. Et puis le jour où on veut... donc là, normalement, l'idée, c'est de dire, une fois que c'est stocké dans l'ADN, on va l'oublier, on va le mettre de côté, puisqu'on sait que c'est stocké pour des centaines, voire des milliers d'années. J'ai pas vocation à toucher à la donnée, elle est archivée, mais je peux quand même la relire. Et je peux la relire en faisant du séquençage, c'est-à-dire en récupérant la donnée, l'ADN synthétique, en faisant du séquençage, et ici, en récupérant donc mon code quaternaire. Alors, la problématique, c'est que ici, principalement aujourd'hui, le séquençage est sujet à erreur, c'est-à-dire qu'on va introduire des erreurs de lecture, en fait, sur l'ADN qui a été stocké, ce qui veut dire que je n'ai pas forcément systématiquement la même séquence ici en sortie, que j'avais en entrée. Donc il va falloir trouver des mécanismes ici de correction d'erreurs qui vont nous permettre de récupérer, enfin de corriger, de compenser un peu les erreurs que ce système de séquençage va introduire, et pour permettre ensuite le décodage. Et donc, aujourd'hui, les recherches sont assez ciblées sur la création de codes robustes à ce bruit de biochimique, et notamment le bruit de séquençage, et donc à ces corrections d'erreurs au niveau de ce code quaternaire. Alors, j'ai indiqué aussi deux autres types de bruit ici, qui est le bruit de synthèse et les dégradations de stockage. Donc, le bruit de synthèse, aujourd'hui... Compte tenu que les compagnies, en fait, les laboratoires qui font la synthèse d'ADN la font pour des biologistes aujourd'hui, puisque on ne la fait pas à grande échelle au niveau du stockage, pour le stockage, mais on la fait pour des applications biologiques, la synthèse garantit quasiment un taux d'erreur nul. Enfin, ces compagnies-là garantissent un taux d'erreur nul sur les molécules synthétisées. Ce qui fait aussi, c'est pour ça que le coût de synthèse est très cher. Et donc, aujourd'hui, on néglige en fait ce bruit de synthèse. Et de la même manière, dans le stockage, on néglige les dégradations de stockage. Mais il peut y en avoir. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra s'intéresser dans le futur. Et notamment aussi pour le bruit de synthèse. Dans le futur, les chimies de synthèse vont, d'une part, accélérer les phases de synthèse. Aujourd'hui, on est en écriture, on est à 100 bits par seconde, donc ce qui est relativement lent. Donc ça veut dire, si on considère un encodage à 2 bits par nucléotide, on est à 200 secondes pour synthétiser une nucléotide. Les projections d'ici 2025 donnent en fait une accélération de x100 sur les chimies de synthèse. Donc on sera plutôt à 1 seconde par bit pour la synthèse. Sachant que bon, ces synthèses-là sont parallélisées aussi, donc l'accélération en fait des chimies synthèses va entraîner par contre une introduction de bruit au niveau de la synthèse, hein, puisque ici on va être sur des synthèses qui, je dirais, seront un peu plus sales entre guillemets que ce qui est fait aujourd'hui, et donc qui vont introduire un bruit qu'il faudra prendre en compte. Alors quand on parle de bruit, c'est quoi ? Alors, juste pour revenir peut-être sur le slide précédent, ici, tout simplement, par rapport au schéma classique de compression, on peut voir cette procédure-là comme un canal bruité. C'est-à-dire ici, j'ai ma donnée, je la transmets sur un canal bruité, puis je reçois une information qui a été transmise sur ce canal bruité, et je dois la débruiter pour arriver à décoder. Donc, on est dans cette même philosophie, et l'idée, c'est d'arriver à modéliser ces bruits, en fait, ces bruits de transmission, enfin, ces bruits de biochimiques, hein, donc. Qui serait équivalent de bruit de transmission dans un canal, enfin dans un système classique de transmission. Alors quels sont ces bruits ? Donc les bruits de séquençage sont essentiellement de trois types. Hein, donc les substitutions et les indels qu'on peut séparer en insertion délétion. Donc les substitutions, eh bien on va simplement substituer une base ou plusieurs bases. Donc ici en l'occurrence on a substitué TAA par GTG. Donc ça veut dire qu'on a encodé ça, et puis le séquenceur, il lit ça. Et les insertions, ben, ici, je peux insérer, par exemple, un nucléotide, en fait, ici, entre C et T, et avoir C et CT. Donc on va restituer cette séquence-là, donc qui va être plus longue que la séquence qu'on avait encodée. Et ou les délétions, donc ici, on va perdre un monomère, donc ici, A, par exemple, a disparu, et donc on va avoir des séquences qui seront plus courtes. Donc, il va falloir enfin, considérer en fait ces trois types de bruits. Et donc, voilà. Alors, de façon très basique, on pourrait se dire, tiens, pour faire du transcodage, du codage ADN, plus simple, c'est de faire du transcodage. Donc, j'ai mon binaire ici, et puis je prends un petit alphabet à 4 bases, donc ACGT, et puis je code, hein, 00A, 01C, et puis etc. Donc, si je fais ça, ben ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher tout simplement parce que les codes que je vais pouvoir construire ici, ben, quand je vais aligner par exemple 0110, ça va faire du CG, puis, etc. Donc je vais avoir des lettres qui vont s'aligner ici. Eh bien, je vais créer en fait des séquences de monomères qui ne vont pas respecter les contraintes biochimiques. Donc je vais juste en parler après. Donc il y a des contraintes liées à la synthèse et au séquençage qui font que tous les mots de code ne sont pas des mots de code valides pour l'encodage. Et puis, si je fais ça, évidemment, je n'ai pas de ce qu'on appelle de contrôle coût-qualité, donc d'optimisation débit-distorsion, dans le sens où bien cette donnée binaire, ça devient ma source, elle est ce qu'elle est, et là, je transcode, donc je ne maîtrise pas à ce niveau-là le coût, le nombre de monomères que je vais synthétiser, hein, donc le coût ici d'encodage, puisque le coût d'encodage, en fait, il dépend de la compression qui a été faite en amont, mais là, à ce niveau-là, je ne peux pas la maîtriser. Alors, au niveau des restrictions biochimiques, donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, la première, elle est liée à la synthèse, à l'erreur de synthèse, et donc aujourd'hui, on synthétise ce qu'on appelle des oligos, donc des suites de monomères, de bases ATCG, de nucléotides, enfin, on a ces trois noms en fait pour les désigner. Donc 300 nucléotides, donc c'est le max de nucléotides aujourd'hui qu'on peut synthétiser sans ajout de bruit. Alors après, si je crée des séquences plus longues, il y a le niveau de bruit qui va augmenter, il va augmenter de façon exponentielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais encoder ma donnée, si je prends une image par exemple, il me faut beaucoup plus de 300 nucléotides pour encoder mon image. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je coupe en morceaux mon train quaternaire, de façon à pouvoir synthétiser mes fameux oligos. Et donc, ça veut dire aussi, derrière, qu'il va falloir, au décodage, pouvoir réassembler le puzzle une fois qu'on a séquencé les oligos. Après, il y a les trois autres contraintes qui apparaissent donc au niveau du séquençage. C'est pas d'homopolymère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas générer des séquences de type, par exemple, AAAAA, donc plus de 3 ou 4 A. Le séquenceur, il peut avoir du mal à retrouver la séquence. Par exemple, plus de 3 ou 4 T, pareil. Donc, quand on a des homopolymères assez longs, donc on a du mal à pouvoir séquencer le brin d'ADN. Le pourcentage de base GC doit être inférieur à celui de DAT. Et puis, la plupart du temps, il vaut mieux éviter les répétitions de patterns, hein, donc du type ATC, 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 par exemple. Donc ça, c'est pas bon pour le séquençage. Alors, dans l'état de l'art, donc comme je disais tout à l'heure, donc les premiers travaux, donc c'est les travaux de Church en 2012. Donc ce sont c'est vraiment le premier travail pionnier, je dirais, qui a vraiment stocké de la donnée numérique sur de l'ADN synthétique avec une grande quantité de données. Donc le codage, lui, était très simple, hein, AC0 et GT1. Donc ici, on a un potentiel de codage qui est relativement faible, mais ces premiers résultats, en fait, ces premiers travaux-là, ont permis de définir en fait les contraintes biologiques biologiques ou biochimiques ici dans notre cas, donc que j'ai énoncé précédemment. Donc ici, on voit qu'on est à 1 bit par nucléotide. Donc si mon code n'était pas contraint, la capacité est de 2 bits par nucléotide. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir au maximum. Comme mon code est contraint, je n'ai pas un code quaternaire complet, donc je vais avoir ici une capacité qui va être inférieure. Donc ici, ce code-là ne crée pas d'homopolymère, il est un taux de GC équilibré avec le taux de AT. Et alors ici, j'ai mis une petite case, donc restreint aux données binaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, ce type de code-là ne peut être utilisé que pour du transcodage, c'est-à-dire avec des données binaires en entrée. On verra qu'après qu'on peut avoir des codes, notamment le code qu'on a proposé, qui peut être adapté à des symboles autres que des symboles binaires. Et donc c'est intéressant pour la compression. Ensuite, donc, viennent les travaux de Goldman. Donc ici, pareil, donc, avec un meilleur taux de codage, donc avec 1,58 bits par nucléotide, avec des, donc ici, panneaux polymères. Et par contre, ici, ce code-là, lui, n'est pas restreint à des données binaires en entrée. Puis les travaux de Grass. Alors, toujours, hein, pareil, ici, donc, l'amélioration du taux de compression. Et puis, des possibilités d'erreur, de détection d'erreur et de correction d'erreur, en fait, dans le code qui a été généré. Donc, ça se base ici sur des codes de Reed-Solomon, des codes correcteurs d'erreur. Donc, pareil pour les travaux de Blawatt, en fait, qui en fait, se basent sur les travaux de Grass. Et enfin, le plus récent, hein, donc 2017, donc Ehrlich, donc avec son code Fontaine Code, donc qui est assez utilisé aujourd'hui dans le transcodage sur ADN, donc qui atteint des performances de 1,98 bits par nucléotide, pas d'homopolymère, permet la détection d'erreurs, par contre qui est toujours restreint au binaire et qui aussi, d'un point de vue complexité, est très complexe. Alors dans ce contexte, nous on a proposé une solution on appelait ça cette solution percode en fait. C'est une solution qui est de faible complexité et qui se base en fait sur la construction de codes quaternaires à longueur fixe et pas de codes quaternaires à longueur variable. Je ne sais pas, peut-être dans ton cours, Stéphane, tu parles de ces problèmes-là et des problèmes de décodage avec du bruit et de resynchronisation de codes si on a des codes à longueur variable. L'avantage d'utiliser des codes à longueur fixe, c'est justement, comme on connaît la longueur des codes, la resynchronisation au niveau du décodage, si on a un bruit, est beaucoup plus facile, en tout cas, que si on a du code à longueur variable. En contrepartie, on est moins performant en termes de compression. Mais comme on l'a vu ici, comme j'ai présenté au début, ces schémas de codage sur ADN, de toute manière, sont soumis au bruit. Il n'y a pas de workflow, de process complet où il n'y a pas de bruit biochimique. Donc, de toute manière, il faut faire avec le bruit. Et quelque part, même si on comprime, parce qu'on veut quand même toujours réduire la quantité de données, on est moins contraint sur une compression extrême que l'on serait si on devait faire la transmission sur des canaux à bande passante limitée, par exemple. Donc, on est sur ce genre de schéma. Alors, percode, donc c'est relativement simple comme concept. On va se baser en fait sur, on va construire un code basé sur deux dictionnaires, donc C1, C2. Donc C1, c'est un dictionnaire qui contient en fait des codes de taille 2. Alors ici, il est basé sur 10 codes en fait de taille 2 qui ont été choisis tels que ici, lorsque j'assemble ces codes entre eux, je ne peux pas créer de mots polymères. Je ne peux pas créer des séquences de plusieurs lettres qui se suivent. Donc, l'assemblage de mots de code ici va nous donner, si je veux construire donc des mots de code de longueur paire, eh bien ici, je vais assembler des mots de code de C1. Si je veux construire des mots de code de longueur impaire, eh bien je vais utiliser un mot de code de C2. C'est-à-dire ici, je vais prendre un mot de C1, par exemple AC, et puis je vais lui ajouter un mot de C2, par exemple T. Donc ACT, ça sera un code de longueur 3. Mais je sais qu'en mélangeant en fait ici mes mots de code de C1 alternativement avec des codes de C2 pour créer des longueurs donc paires ou impaires, enfin de longueurs de mots de code, je ne peux pas créer en fait de mots polymères. Donc ici en contrepartie les mots de code ici que je vais les dictionnaires, les tailles de dictionnaires que je vais de code, hein, de, le code c'est-à-dire l'ensemble des mots de code, les tailles de code que je vais créer, eh bien, sont relativement importantes. Hein. Je veux dire, le code minimum, c'est 10, hein, donc ce sont mes 10 mots de code de longueur 2 nucléotides. Et puis ensuite, si je crée un mot de code de longueur 3 en rajoutant un mot du dictionnaire C2, eh bien, je passe tout de suite à une taille de dictionnaire, une taille de code qui est de 4 fois 10, donc de 40 mots. Et puis, alternativement, ici, si je passe à 4, eh bien, à 4, j'aurai 40, je vais avoir 400, euh, euh, 400 mots, et ainsi de suite. Donc en fait, le problème de ce type de code, c'est que lorsque j'augmente en fait à chaque fois, soit je double le mot de code, soit si je double ou si je rajoute un monomère, eh bien j'augmente énormément sa taille. Donc ça veut dire si par exemple j'ai 12 symboles à coder, eh bien il me faudra générer un dictionnaire de 40 mots de code. Donc ça veut dire que j'ai 28 mots de code qui ne seront pas utilisés. Donc c'est un des désavantages, mais que l'on va ensuite exploiter par le fait qu'on est sur des systèmes d'encodage qui sont bruités, et notamment ces extra mots de code en fait, eh bien vont me servir pour à la fois éliminer les répétitions de patterns ou essayer d'avoir un système de correction d'erreurs. Et donc ici, si je veux éliminer les répétitions de patterns, donc là j'ai mes symboles que je veux mon dictionnaire de symboles à coder, donc dimension k. Ici j'ai le code que je construis à partir de mes deux dictionnaires C1 et C2, donc lui il est de dimension grand L. Alors on voit la partie grisée en fait, ce sont les mots de code, enfin ça symbolise les mots de code que j'ai générés mais que je n'utilise pas puisque ici j'en ai besoin que de k et j'en ai généré grand L qui est plus grand que k. Par contre, ce que je peux faire, c'est définir ici un L en fait qui soit multiple en fait de k et pouvoir exploiter en fait les mots de code, les extra mots de code ici que je génère de façon à allouer un double encodage pour chacun des symboles. Donc ça veut dire ici, par exemple, si je prends le symbole S1, ben S1 sera codé par C1 ou par C1 plus M-1K. Donc c'est décodable, évidemment, puisque le décodeur, lui, ben, s'il reçoit C1, il va décoder S1, et puis s'il reçoit C1 plus M-1K, il décodera S1 aussi. Donc cette double allocation, alors ici c'est un exemple à deux allocations, mais on peut le faire à plusieurs, permet de lorsque j'ai une séquence de symboles S1, donc S1, 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 ça permet d'alterner entre le code C1 ici et puis le code C1 plus M-1K, de façon à éviter la répétition de pattern en fait, dans la séquence. Alors ce type de répétition apparaît souvent, hein, si vous travaillez sur des coefficients d'ondelettes ou sur des coefficients DCT, par exemple en compression, vous avez souvent des répétitions en fait, de symboles, des runs, et ce qui fait que les patterns dans ce type de codeur peuvent apparaître fréquemment. Donc ce type de mécanisme-là va permettre en fait, de réduire cet effet de pattern et aussi de faire en sorte que les mots de code ici résiduels que je vais générer avec mon mécanisme de synthèse de dictionnaire, donc avec ces deux dictionnaires C1 et C2, eh bien, soit minimisé puisque ici il va rester très peu de mots de code en fait non utilisés. Alors le mécanisme peut être aussi utilisé pour faire de la correction d'erreur puisque effectivement on peut définir deux classes de mots de code et puis affecter une classe par exemple pour des symboles qui apparaîtraient en position impaire ou l'autre classe pour des symboles qui apparaîtraient en position paire et en fonction en fait de cette alternance. Ici, on peut passer d'une classe à l'autre en fait, pour coder, ce qui veut dire que le décodeur, lui, connaissant la classe du mot de code, connaissant la position en fait, du symbole décodé, peut savoir si, il y a eu erreur ou pas, puisque la classe doit correspondre à la position. Donc, ce sont des atouts en fait, de ce code. Alors, bon, les avantages et inconvénients, bon, alors évidemment, c'est un code à longueur fixe, donc c'est un code qui est, en termes d'efficacité de codage, qui est moins performant qu'un code à longueur variable. Par contre, en contrepartie, il est beaucoup plus robuste à l'erreur de séquençage et donc permet des corrections d'erreurs donc plus efficaces. Donc ça permet alors d'intégrer, donc il y a une facilité d'intégrer ce code dans des systèmes de compression, donc dans la boucle d'optimisation du compresseur, notamment au niveau de l'allocation de débit. Donc ici, ça c'est un des atouts de ce code. Alors ça aussi il peut être appliqué à n'importe quel type d'entrée. Donc les symboles qui doivent être encodés sont des symboles qui peuvent être n'importe quelle valeur et pas uniquement des symboles binaires. Donc il est simple à mettre en œuvre. Et puis cette redondance en fait extra, donc ça permet en fait d'éviter les répétitions de patterns et permet la collection d'erreurs. Alors, si on se compare un peu à l'état de l'art, donc ici, sur du transcodage pur et dur, donc on a sur des performances à 1,6 bits par nucléotide. Par rapport aux autres, on n'a pas de pattern, on n'introduit pas de pattern. On peut faire de la détection d'erreur. Et on n'est pas restreint donc à des données binaires en entrée. Donc, on est un petit peu comparable à Goldman, hein, je dirais, à l'algorithme de Goldman en termes de perfo. Sauf que Goldman, comme on va le voir ici, d'ailleurs, on se compare à Goldman. Donc, Goldman est un algorithme qui se base quand même sur du codage à longueur, enfin du code à longueur variable, hein, enfin, puisque ici on va utiliser en amont, on va utiliser un code d'Huffman ternaire. Donc le code d'Huffman ici, donc sur un alphabet 0, 1, 2. Une fois qu'on a appliqué ce code d'Huffman ternaire sur nos symboles d'entrée, eh bien, on va convertir ces symboles ternaires en code quaternaire, ici, selon la table de transcodage suivante. Hein, donc ici, si... Alors, ce qui est intéressant dans l'algorithme de Goldman, c'est que le mot de code n'est pas fixe, en fait. Il dépend, en fait, du Huffman ternaire, mais aussi du nucléotide précédent qui a été codé dans le mot de code. Si dans votre mot de code, vous avez encodé votre nucléotide précédent, c'est un A, alors les suivants ne peuvent être que T, C ou G, selon en fait, le symbole en fait, issu du Huffman ternaire. Donc si c'est 0, vous aurez T, si c'est 1, vous aurez C, et si c'est 2, vous aurez G. Et ainsi de suite, selon le précédent nucléotide qui a été introduit. Donc ces mécanismes-là permettant d'éviter d'avoir des codes qui sont à répétition, hein, de ne pas avoir des homopolymères, hein, tout simplement, une succession de A, par exemple, dans le mot de code. Alors, on peut montrer que bon, mais ces codes-là sont, la longueur moyenne en fait plus grande que l'entropie d'ordre 3, qui est, à base 3, et plus grande que l'entropie ici à base 4, évidemment du code quaternaire. Toujours est-il, il faut aussi concevoir que le code ici est un code est un code contraint. C'est-à-dire, hein, quand je regarde une entropie à base 3 ou à base 4, ici, je considère des codes complets, c'est-à-dire sans aucune contrainte, en fait. Sans aucune contrainte. Alors, si on fait un peu de traitement d'image derrière et qu'on essaye de coder des données, donc on a la fameuse image LENA dans cette expérience, donc 512 par 512 pixels sur 8 bits en noir et blanc, et on a compressé cette image-là avec un codeur JPEG ou un codeur JPEG 2000. Donc on a généré un train binaire et on a transcodé ce train binaire. Donc dans un cas, on l'a transcodé avec l'algorithme de Goldman ici, donc c'est la courbe noire, et ou avec notre solution percode, donc qui est ici donc en bleu lorsque je n'ai pas de contrainte sur les répétitions de pattern. Et en rouge, lorsque je mets une contrainte sur les répétitions de patterns. Donc, c'est-à-dire ici, si je fais en sorte que mon dictionnaire il est un peu plus grand, de façon à avoir une possibilité d'alterner deux codes, au moins deux codes sur un symbole à encoder. Alors ici, sur un mot binaire à encoder. Donc, en fait, comment fonctionne ce type de transcodage ? Donc, vous avez un train binaire issu de votre compresseur. Ce train binaire, en fait, vous le coupez en octets, par exemple, donc en mots de 8 bits, et chaque octet, en fait, va être représenté par un mot de code quaternaire. Donc, dans notre cas, dans notre cas, c'est des mots de code à longueur fixe. Dans le cas de Goldman, c'est d'abord un arbre d'Huffman ternaire, donc un code anthropique, et ensuite une conversion en quaternaire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'avec notre code, je dirais, à longueur fixe, on est donc pratiquement du même ordre de grandeur en termes de performance qu'avec un code qui est un peu plus sophistiqué. Donc, on est du même ordre de grandeur. Juste pour info, ici, on a estimé le rapport signal-abri, donc PIC-SNR, donc qui est le classique en traitement d'image, donc c'est un rapport signal-abri, PIC. Ici, sur l'axe des X, j'ai défini le débit comme un nombre de nucléotides par pixel. D'accord ? Donc ici, quand vous codez en binaire, vous définissez un nombre de bits par pixel. Quand vous codez en quaternaire, c'est plus des bits, mais c'est des nucléotides ou des bases. Et donc ici, on va définir un nombre de nucléotides par pixel. Donc plus ce nombre de nucléotides est élevé, évidemment, plus ma performance est bonne, hein, mais plus ça me coûte cher. Alors, de façon alternative, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, et surtout ceux qui font du transcodage, expriment souvent plutôt en bits par nucléotide plutôt qu'en nucléotide par pixel. Enfin, nucléotide par pixel, c'est vraiment typique à l'image. La plupart des gens, quand on a un fichier d'entrée qui est binaire et qu'on fait du transcodage, on va s'exprimer en bits par nucléotide, qui est plutôt un taux de compression, en fait. Ici, on est sur un débit. Donc, la variation du débit ici peut se faire parce que on a fait varier la qualité du codeur JPEG ou du codeur JPEG 2000, donc avec le contrôle de la qualité, ce qui nous permet en fait d'avoir ces variations-là. Alors, en contrepartie, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, si j'insère du bruit en fait dans ma séquence quaternaire, et donc en l'occurrence ici, on a inséré 10 substitutions pour une image qui était codée à 2,7 nucléotides par pixel. Donc à gauche c'est Percode et à droite c'est Goldman. Donc on voit qu'il y a l'algorithme avec des codes à longueur fixe est beaucoup plus robuste que l'algorithme Goldman qui est à longueur variable, qui se base sur le chemin ternaire. Alors il faut voir ici qu'on a des erreurs qui apparaissent un peu aussi. Il ne faut pas oublier que si je reprends, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ici, si je prends ce petit schéma là, c'est que avant de faire le transcodage, on a appliqué ici un codeur JPEG qui, lui, génère un train à longueur variable. Donc si je fais une erreur sur mon mot de code, par exemple, dans Percode, donc je ne décode pas correctement mon mot de code, bon, ben, ce qui arrive, c'est que ça veut dire que tout le mot binaire qu'il encode est détruit. Et comme ce mot binaire, en fait, lui, il est issu d'un code à longueur variable, donc ça va me détruire une plus longue séquence, une plus longue portion d'image que le simple mot de code que le simple mot de code per code. Alors, j'ai parlé de transcodage. Donc, le transcodage, c'est voilà, moi j'ai du binaire qui est issu d'un certain système de codage, et je fais le transcodage. Donc, je regarde ce binaire-là, c'est ma source. Et je convertis en quaternaire. Donc si je fais ça, effectivement, en faisant ce genre d'approche-là, je perds toute l'information de ma donnée source. C'est-à-dire ça, je ne sais pas que ce train binaire-là, c'était ma donnée LENA. Donc je n'ai aucun a priori sur la donnée en fait, que le train binaire est en train d'encoder. Et donc ça, en fait, c'est pas forcément bien dans le sens où... ça peut l'être quand on fait du transcodage de fichiers PDF, par exemple, ou de texte, où on sait qu'on veut la qualité maximale. Et voilà. Quand on fait du codage d'image, on sait très bien qu'il y a le masquage visuel, qu'on peut introduire du bruit qui ne va pas être perçu par l'œil, qu'on peut corriger du bruit en ayant des a priori sur la donnée spatiale. Et si on fait que du pur transcodage, bon, ça va marcher, mais on va oublier toutes ces notions-là. Et en fait, l'idée... ici, ce qu'on a proposé, c'est de carrément intégrer le codage quaternaire dans en fait, la solution de compression. Et donc, de proposer un algorithme qui va être ici plutôt spécifique à l'archivage d'images, avec un codage quaternaire direct, c'est-à-dire un codage qui ne passe pas par du binaire. C'est-à-dire que moi, j'ai mes symboles de quantification, je les code directement en quaternaire, et je n'ai pas de train binaire associé. Et donc, le fait de pouvoir intégrer un système comme ça un codage comme ça dans un système de compression va me permettre aussi de contrôler directement le compromis coût-qualité, en fait, directement au niveau de l'encodeur. Et donc, le schéma, en fait, qu'on a proposé, c'est le suivant. Donc, je ne rentrerai pas vraiment dans les détails de comment on fait. C'est assez, je dirais, classique par rapport, finalement, au système de codage qu'on trouve dans la littérature, donc JPEG ou JPEG 2000. JPEG, je dirais plutôt, sauf qu'ici, on a utilisé une transformée en ondelette et puis une quantification. Alors, dans notre cas, la quantification, enfin, dans l'exemple que je vais montrer après, normalement, c'est une quantification vectorielle. Alors, pourquoi on a fait de la quantification vectorielle? Alors, c'est aussi quelque chose de très vieux, mais qu'on a un peu ressorti des étagères. Parce que, comme on utilise un code à longueur fixe, on essaye de capter les statistiques en fait, du signal encodé grâce à notre quantificateur vectoriel qui est entraîné en fait, sur la donnée, enfin, en tout cas, sur une base d'apprentissage en fait, qui représente les données que l'on va quantifier. Donc, le code à longueur fixe, contrairement au code à longueur variable, ne permet pas de capturer en fait cette statistique. Donc, on compense ça en mettant des quantifieurs qui, eux, sont plus adaptés à la statistique du signal de source. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Alors, évidemment, les paramétrages de ces quantificateurs-là sont obtenus grâce à une allocation, alors qu'on a appelé une allocation de nucléotides, hein, contrairement à l'allocation de débit ou de débit binaire qu'on retrouve dans les schémas de compression. Donc ici, on a fait une allocation de nucléotides qui nous permet de définir le nombre de nucléotides par sous-bande de façon optimale, de façon à, lorsque l'on décode ici, sans bruit, on est capable d'avoir le maximum de qualité sur l'image décodée. Et évidemment, ici, on va faire la conversion en quaternaire, enfin, directement des symboles issus de la quantification, on va avoir directement un code quaternaire. Alors après, au milieu, on a fait évidemment fait des simulations. Hein, donc ici, on dispose de simulateurs numériques en fait pour simuler les bruits, hein, à ce niveau-là. Alors il y a encore des choses à faire, hein, dans les simulations de bruit qu'on peut mettre ici, puisque les simulateurs ont été développés par rapport au séquençage du génome, donc sur des brins d'ADN qui sont beaucoup plus longs, ce qui n'est pas le cas dans notre cas, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des brins de maximum 300 nucléotides. Donc les modèles statistiques doivent être réétudiés, réévalués sur les simulateurs de bruit qui existent aujourd'hui à ce niveau-là. Donc on a fait des essais avec des simulateurs de bruit, on a fait des essais aussi avec des vraies expériences en laboratoire, et notamment en produisant ici nos séquences ADN, en les envoyant, donc ici c'est une compagnie américaine qui fait ça, Twist, alors il y a quelques compagnies dans le monde qui font ces synthèses, donc qui permettent ici de générer de la molécule d'ADN. Le stockage, donc, qui a été ici fait par Imagen, donc, qui est une compagnie française, et puis on s'est amusé, une fois que ça a été stocké, de reséquencer, donc on va faire une amplification PCR pour augmenter le nombre de brins d'ADN qui avaient été stockés, on les séquence, et puis on a notre processus ici de décodage qui, avant finalement d'inverser, de reconstruire le signal ici, eh bien, il y a une étape de sélection ici d'oligo, de brins d'ADN, donc, qui est de sélection et de débruitage pour nous permettre de reconstruire au mieux le signal là et, dans le meilleur des cas, de retrouver le signal d'entrée moyennant le bruit de compression qui a été inséré par cet opérateur ici. Donc, l'expérience laboratoire, donc ça, c'est pour vérifier effectivement que ça marche, hein, que ce qu'on fait, ça a du sens. Et donc, ça traduit la première expérience qu'on avait faite en 2018 ici, donc avec deux images de 128 par 128 pixels codées. Elles ont été comprimées donc à 2,68 bits par nucléotide et à 1,78 bits par nucléotide avec deux rapports signal à bruit. Donc, ça, c'est les qualités de mes images qui ont été stockées sur ma molécule ADN. Et on a synthétisé ici 2000 oligos, en fait, et que l'on a stocké dans des capsules. Donc ça, c'est les photos des capsules. Alors j'ai une capsule ici, donc pour ceux... Enfin, je peux vous la montrer, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir de plus près. Enfin, je pourrais vous la montrer. Donc, dans cette capsule ici, j'ai de l'ADN synthétique qui contient des images, hein, qui a été... donc dans la capsule ici, enfin, c'est une capsule en titane qui est scellé au laser, donc qui est complètement hermétique. Et à l'intérieur, il y a une capsule en verre qui contient de l'ADN qui a été déshydraté, donc qui est à l'abri de l'oxygène, de l'eau, enfin, il est dans de l'argon, je crois, donc à l'abri de l'oxygène, de l'eau et de la lumière. Et donc dans ces capsules-là, on peut donner, le constructeur, donc Imagen, donne minimum 500 ans de durée de vie de l'ADN, voire plus, hein, voire plusieurs milliers d'années. Donc, c'est estimé théoriquement, évidemment. Donc, on fait des simulations ici pour vieillir, en fait, hein, pour dégrader, altérer le stockage, hein, en accélérant le vieillissement. Et donc, on peut montrer que, voilà, on pourrait conserver cette donnée, je dirais, quelques milliers d'années. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste encore, Stéphane. J'ai presque fini. Mais... OK. Donc ici, alors juste pour préciser, une fois que j'ai encodé mon train binaire, enfin ma donnée en code quaternaire, j'ai ma séquence ADN, C'est pas fini parce que je ne peux pas la synthétiser telle quelle parce que je vais avoir plusieurs milliers de nucléotides. Donc on est obligé de la couper en morceaux et donc ici en morceaux de moins de 300 nucléotides, enfin selon les synthèses que l'on veut faire, mais pas que puisque ici je suis obligé aussi d'indiquer en fait des métadonnées qui vont me permettre après séquençage. Compte tenu qu'on fait de l'amplification PCR et compte tenu que dans ma capsule ici j'ai des millions de copies d'un même oligo, ça permet une fois que j'ai fait le séquençage de ces données-là où je me retrouve à plusieurs centaines de millions d'oligos, si j'ai besoin de retrouver 1000 oligos parmi la centaine de millions débruités, il faut ensuite que je sois capable de les réassembler pour reconstruire le puzzle et reconstruire le train ADN complet. Donc il va falloir ici mettre des métadonnées, notamment des offsets, des headers, qui vont permettre de repositionner le payload, la data, correctement dans mon train binaire. Donc on a une liste en fait ici d'oligo. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit ici la data. Au milieu, ici, on voit les headers, donc c'est avec des structures un peu identiques. Et sur les côtés, c'est ce qu'on appelle en fait les primers. Donc ce sont des séquences prédéfinies, hein, une espèce de barcode, qui sont utilisées par le séquenceur donc pouvoir séquencer, donc commencer et finir le séquençage, donc pour se repérer dans le séquençage. Donc ici on a fait du séquençage donc sur deux types de machines, donc les machines un peu plus enfin classiques, les machines Illumina, donc qui sont des machines assez grandes mais qui sont relativement compactes aujourd'hui, et des machines qui sont beaucoup plus récentes qui s'appellent les Oxford Nanopore et notamment ici c'est le MinION, donc qui sont des allez je dirais c'est un truc qui est un petit peu plus gros que ça et qui se plug sur un PC. Donc on met la goutte d'ADN à l'intérieur et le système va faire le séquençage. Donc on est capable ici de retrouver en fait un paquet d'oligos après séquençage parce qu'on a fait une amplification PCR et donc le séquençage va générer des millions de copies en fait de la donnée qu'on veut retrouver. Donc on est obligé pour décoder, pour retrouver chaque oligo, on est obligé de faire ce qu'on appelle de calculer un consensus. Donc on va clusteriser les oligos, donc les brins d'ADN séquencés. Alors évidemment, ces brins d'ADN, ils peuvent avoir des indels et des substitutions, donc ils vont avoir des longueurs différentes, ils vont avoir des lettres qui vont être changées. Donc il va falloir ici un peu nettoyer tout ça, clusteriser, donc faire un peu de la classification, et puis ensuite, dans chacun des clusters, essayer de retrouver un consensus. C'est-à-dire un oligo qui représente l'ensemble des oligos dans un cluster qui sont eux bruités, mais d'après la classification, la clusterisation correspondent en fait entre eux. Donc on utilise en général pour calculer les distances entre des oligos, donc comme ça, des distances d'édition, enfin, ou de Levenstein. Donc c'est une généralisation de la distance de Hamming en fait, qui permettent en fait ici de les clusteriser, et donc avec un consensus. Donc ici, le consensus, c'est relativement simple. Si on a plusieurs A qui apparaissent, bon, ben, on va dire que c'est A qui est c'est une règle de majorité. Et puis ici, s'il y a C, T, T, ben, on va dire que c'est plutôt T que C. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ça marche bien sur des séquenceurs type Illumina qui sont à de faibles... Enfin, qui ont des grandes précisions. Ça marche moins bien sur les MinION qui, eux, sont moins précis, mais qui sont plus rapides, alors que lui, enfin, le Illumina est beaucoup plus lent. Alors, pour améliorer un peu la performance d'un MinION, et c'est un peu les challenges aujourd'hui, eh bien, on a proposé en fait des consensus un petit peu plus intelligents qui se basent en fait sur les mots de code qu'on a générés grâce à notre codeur per code. On connaît le dictionnaire de mots de code, donc on sait ici les mots de code que l'on doit retrouver en fait au décodeur. Donc, le consensus ne se fait plus monomère par monomère, mais groupe de monomères par groupe de monomères. Et en faisant ça, on voit qu'on arrive à quand même un peu mieux améliorer en fait le décodage au niveau d'un nanopore. Alors, juste très rapidement, je vais juste passer rapidement là-dessus. Donc, c'est aujourd'hui en fait dans JPEG, le comité de standardisation JPEG, donc jpeg.org. Ici, je vais donner le lien. Il y a un groupe s'est créé qui s'appelle JPEG DNA, donc il y a un groupe de travail sur l'étude de la possibilité d'une normalisation de stock de codage d'images donc dans l'ADN. Ce groupe a défini aujourd'hui un benchmark codec. Hein, c'est pas le codeur JPEG DNA, hein, mais c'est un codec d'évaluation. qui se base en fait sur le paradigme JPEG, hein, c'est-à-dire ici DCT, quantification scalaire avec quantification, et puis ici codage différentiel sur les coefficients DC et codage ici zigzag avec, enfin lecture zigzag avec codage runline sur les coefficients AC. Donc je ne sais pas si tu en avais parlé dans tes cours, mais bon. Donc ici c'est un paradigme enfin assez classique et avec derrière des codages à longueur variable que nous on va remplacer ici par dans le cas des codeurs différentiels pour les coefficients DC, on va mettre du codage donc de Goldman, donc avec un codage ternaire d'Huffman. Et sur les valeurs, donc ça c'est pour les catégories de différence, et pour les valeurs de différence, on va utiliser notre algorithme par code. Et pareil sur les coefficients AC, donc les hautes fréquences. Pour le coup, là, ça sera les run catégories qui seront codées avec le code de Goldman, et puis le per code va coder les valeurs. Alors, on a comparé en fait ces différentes solutions d'encodage. Pareil ici, donc le débit en nucléotides par pixel, la qualité en rapport signal abri pic en décibels, donc sur cette image-là, donc on a changé d'image, on ne prend plus l'ENA maintenant, on prend le chat. Et donc, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ici la courbe bleue, c'est donc ce fameux JPEG DNA benchmark codec, donc en termes de performance, il est ici. On peut se comparer à la quantification vectorielle et per code, c'est-à-dire ici cette courbe-là. Alors évidemment, la quantification vectorielle avec un code à longueur fixe reste quand même moins performante qu'un codeur ici JPEG, donc avec des codes à longueur plus ou moins variable, on va dire. Et puis, on se compare ici à trois approches. La verte et la orange, ces deux-là, c'est du transcodage à partir de JPEG, donc avec en vert Goldman et en orange per code. Donc c'est les courbes que j'ai montrées tout à l'heure, mais maintenant appliquées sur cette image-là et pas sur l'ENA. Donc on voit que les deux transcodeurs sont performants, sont du même ordre de grandeur que JPEG lorsqu'on est dans les bas débits, et puis on devient meilleur quand on est dans les hauts débits. Et ici, la courbe rouge, c'est aussi du transcodage, mais avec un nouveau codeur qu'on a développé, enfin on est en train de le développer, qui est un codeur anthropique pour le coup, basé sur le code de Shannon Fano, mais que l'on va contraindre de façon à respecter les contraintes biologiques. Donc je termine sur cet exemple-là, avant la conclusion. Donc, alors, la hiérarchie, c'était de dire la quantification vectorielle, code fixe, c'est moins bien. Ensuite, j'ai du JPEG, ensuite, j'ai du transcodage en termes de performance pure sans bruit. Maintenant, si je mets du bruit, et ici, j'ai fait simplement une délétion dans la donnée. Donc, sur la gauche, j'ai la quantification vectorielle. Donc, on voit que l'impact ici de la délétion, bien, avec un code fixe sur la quantification vectorielle, bon, ben, on est sur un schéma ondelette, hein, donc on est quand même assez intéressant. Sur JPEG, ça va nous donner ce genre d'erreur, et en transcodage, eh bien, on va pouvoir perdre, hein, effectivement, puisqu'on a vraiment que du code anthropique en amont. Donc, quelque part, la hiérarchie s'inverse. Hein, quand on met du bruit, on est plus robuste avec ce genre de codeur qu'avec ce genre de codeur, même si, dans l'absolu, les performances sont meilleures avec le transcodage. Donc, en conclusion, en fait, ici, j'ai voulu montrer déjà un petit peu le contexte, ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles tendances de compression. Et en fait, il y a beaucoup de choses à développer sur les aspects ADN, notamment les aspects, tout ce qui est code correcteur d'erreur, code contraint, modélisation de bruit, etc. Donc, il y a des gros challenges aujourd'hui. Dans ce contexte, j'ai présenté en fait un peu l'état de l'art et un algorithme que l'on a développé qui introduit enfin ce paradigme de contrôle de coût qualité qu'on peut retrouver dans les systèmes de compression classiques et qui ne sont pas retrouvés dans l'état de l'art aujourd'hui qui s'intéresse plutôt au transcodage. Donc nous, on peut s'adapter à différents types de données d'entrée. On vérifie donc les problèmes des contraintes biochimiques. Alors même si on n'est pas super performant en termes de débit d'extorsion dans l'absolu, eh bien on est quand même plus robuste au bruit de séquençage. Et donc les travaux futurs, évidemment, c'est améliorer les systèmes de codage-décodage, donc en explorant probablement des solutions JPEG, alors, pas que JPEG 2000, voire des nouvelles solutions. Alors il y a du JPEG AI qui est en train d'être étudié aujourd'hui, donc avec des systèmes de machine learning, donc d'auto-encodeurs pour faire de la compression. Donc il est intéressant aussi de regarder ces aspects-là. Donc robustifier la donnée au bruit de séquençage et aux futurs bruits qui vont être introduits par les nouvelles chimies de synthèse, et donc créer des codes quaternaires qui permettent la correction d'erreurs. Alors évidemment, c'est aller aussi sur des oligos qui sont plus longs et pas se limiter à 300 de façon à pouvoir comprimer beaucoup plus fortement. Et dans les séquençages, s'intéresser probablement au nanopore qui est le futur en fait du séquençage. Alors qui est un faible coût de séquençage qui peut-être dans la décennie on pourra faire ça à la maison et séquencer nos données à la maison, mais par contre qui est encore sujet à erreur et pour lequel il faut aussi développer des modèles de bruit. Donc juste ce travail, c'est un travail collaboratif. Donc, bon, alors ce sont mes étudiants, donc mes deux doctorants et puis ma postdoctorante. Collaboration avec l'IPMC, donc l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sofia Antipolis, donc, qui ont la plateforme UCA Genomics pour le séquençage, et Eurecom aussi, donc à Sofia Antipolis. Ce travail rentre dans le contexte aussi d'un projet européen qui s'appelle OligoArchive. Et aussi, je voulais parler très brièvement donc, de Molecule Archive, qui est un PEPR donc, exploratoire qui est passé l'année dernière. Donc, je suis directeur de programme de ce PEPR. Donc, c'est un projet à 20 millions d'euros sur 7 ans donc, qui essaye de fédérer la communauté française pluridisciplinaire, à la fois des chimistes, des bioinformaticiens, des traiteurs de signaux, des traiteurs de signaux et traiteurs d'images et des biologistes pour proposer une solution, française et poussée vers l'Europe, donc de codage, de stockage, enfin d'archivage de données sur ADN synthétique. Donc voilà, donc merci pour votre attention. J'ai fait ce que j'ai pu.